Hélène Roussel, bonsoir.
Bonsoir. Entre 5 et 10 mètres, ça suffit comme distance pour protéger les maisons ou les écoles des champs traités aux pesticides. Décret en consultation à partir de lundi. Anecdotique et cosmétique, le gouvernement déjà taclé par les écologistes et certains élus. Un visage et un nom, Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien libre. Échange de prisonniers historique entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous irons à Kiev dans ce journal. Dans l'actualité encore, l'université d'été de la République En Marche à Bordeaux, ou comment faire avec les dissidents avant les municipales. Les gilets jaunes en action, violence à Montpellier. Et puis le sport avec le foot, match qualificatif pour l'Euro, France-Albanie ce soir. L'équipe de France de basket qualifiée pour les quarts de finale du Mondial. Et puis le défi de toute une vie, remporter un 7e US Open de tennis, un 24e titre en grand chelem. Serena Williams joue ce soir à New York. Enfin, il fait frais, gris et pluie. Les prévisions de Jean-Michel Golinski, c'est la fin du journal.
France Inter.
Les pesticides, ce poison, encore plus pour les habitants qui vivent au milieu des champs traités. Alors y a-t-il une distance minimale à respecter pour protéger ces populations? Oui, le gouvernement va suivre les préconisations de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, et ça donne 5 mètres en cas de culture basse, de légumes par exemple, 10 mètres en cas de culture haute, de céréales la plupart du temps. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.
C'est la première fois que des distances minimales vont être instaurées partout en France. On est un des premiers et un des seuls pays européens à le faire. Et les distances, elles sortent pas d'un chapeau. C'est celles qui ont été préconisées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est donc des avis scientifiques. On pourra les adapter localement dans le cadre de charges. J'ai entendu le maire de Langouette qui nous dit que ça n'est pas un avis scientifique qui l'a conduit à prendre cette distance. Je comprends son point. Simplement, vous savez que c'est un autre sujet. Et évidemment, moi je suis aussi favorable à ce qu'on accompagne encore davantage les agriculteurs pour qu'ils puissent réduire au maximum l'utilisation des pesticides. Mais c'est un autre sujet.
À 5 et 10 mètres donc, pour protéger les maisons ou les écoles des épandages de pesticides, le maire de Langouette, près de Rennes, s'étrangle. Daniel Cueff avait pris récemment, vous vous en souvenez sans doute, un arrêté anti-pesticides avant d'être suspendu par la justice. Pour lui, c'est 150 mètres minimum ou rien.
Au début, quand on m'a annoncé ça, j'ai cru à une fake news. Je me suis dit, mais c'est aujourd'hui ce qui est indiqué sur les bidons de pesticides de synthèse, c'est-à-dire des procédés anti-dérive. Quand on met cet épandage sur le sol, vous avez 5 mètres d'un côté et de l'autre du pulvérisateur pour empêcher les gouttelettes d'aller dans le champ ou le jardin du voisin. Donc ce qu'est en train de prévoir Monsieur le ministre de l'Agriculture, c'est en fait de demander à respecter le mode d'emploi qui se trouve sur les bidons de pesticides.
Et d'autres réactions cet après-midi, celle d'Europe Écologie Les Verts notamment, qui juge aussi les distances largement insuffisantes, pour ne pas dire anecdotiques, dérisoires, a dit Nicolas Hulot. Le décret doit entrer en application en janvier, soumis à consultation à partir d'après-demain, lundi. Le débat ne fait que commencer. L'Amazonie qui continue de partir en fumée, les départs se multiplient, bien loin d'être sous contrôle, comme voudrait le faire croire le président brésilien Bolsonaro. L'extrême droite au pouvoir, qui a d'ailleurs prévu de réduire d'un tiers l'an prochain les moyens consacrés à la lutte contre les feux. 43 morts, le dernier bilan après le passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas, mais des centaines d'habitants toujours portés disparus. Les évacuations s'accélèrent, plus de la moitié de l'île de Grand Tabaco est complètement ravagée et selon l'ONU, au moins 70 000 habitants sont aujourd'hui en détresse. Des militaires français vont partir sur place. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Armées, Florence Parly, avec aussi une équipe de médecins et du matériel attendu sur zone d'ici le milieu de semaine prochaine. La France salue une volonté de renouer le dialogue. L'Ukraine parle d'un grand pas vers la fin de la guerre. Un échange de prisonniers historique ce midi entre la Russie et l'Ukraine, du jamais vu depuis le début du conflit en 2014. 35 prisonniers de chaque côté. Et sur la liste des Ukrainiens relâchés par Moscou, le cinéaste Oleg Sentsov, dont on avait suivi notamment la grève de la faim. Stéphane Sioan est à Kiev pour France Inter. Il était à l'aéroport tout à l'heure pour l'arrivée.
C'est un homme fatigué mais visiblement soulagé et serein qui est descendu sur le tarmac de l'aéroport de Kiev. Oleg Sentsov a très peu parlé, il s'est précipité dans les bras de sa famille et notamment de sa fille qu'il n'avait pas vue depuis plus de 5 ans. Le réalisateur a été libéré en compagnie d'autres prisonniers politiques et notamment 23 marins arrêtés par les autorités russes en novembre dernier. Le retour de Sentsov et des prisonniers met du baume au cœur à toute la société ukrainienne fatiguée après 5 années de guerre avec la Russie. Mais surtout, cet échange de prisonniers négocié depuis plusieurs semaines entre le président Volodymyr Zelensky et son homologue Vladimir Poutine va permettre de dégeler les relations entre les deux pays, alors qu'une première rencontre entre les deux chefs d'État devrait intervenir sous peu. Le président Zelensky a évoqué un nouveau chapitre dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, mais la libération des 35 prisonniers ukrainiens aura coûté très cher à Kiev. L'Ukraine a livré à la Russie un témoin clé du crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines. À Kiev, Stéphane Suran pour France Inter.
Un soulagement, un vent d'espoir, mais toujours beaucoup de colère aussi parmi les soutiens d'Oleg Sentsov. C'est le cas du réalisateur français Romain Goupil.
Je suis content. En même temps, ça montre les pratiques de ce pouvoir. C'est-à-dire, vous accusez quelqu'un innocent, et après, ça vous fait du matériel pour l'échanger. Donc, vous le traitez d'espion, vous faites monter en disant « jamais on ne cédera, c'est un terroriste ou un apprenti terroriste ». Il a fait sauter la statue de Lénine. Enfin, tout ça est absurde. Pour en faire à quelqu'un qui va, selon les nécessités du moment, échanger contre d'authentiques assassins. Mais malgré ça, je suis content pour lui, pour ses enfants et tous ceux qui l'ont soutenu, qu'on ait réussi à ce résultat, même si c'est un déni de justice.
Et Romain Goupil, joint par Jean-Michel Naga, et ce soir, c'est Emmanuel Macron qui, à son tour, salue la libération du cinéaste Sentsov. Le septembre noir des gilets jaunes aura-t-il lieu? Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous, on lâchera pas. Les criteaux collés sur la mairie de Toulouse aujourd'hui comme une promesse ou une menace. Un peu plus de monde en tout cas dans les rues ce samedi que la semaine dernière. Pas d'action de grande ampleur. Toujours difficile d'évaluer le nombre de manifestants. Sans doute 1 000 à Lille. Manifestations aussi à Paris, à Rouen et environ 2 000 à Montpellier. Montpellier où des violences ont très vite éclaté. Hélène Aloison, France Bleu Hérault.
Des tensions qui sont apparues dès les premières minutes du rassemblement. Près de la gare, à une centaine de mètres de son point de départ, des manifestants jettent des bouteilles de verre et des pétards sur les CRS qui répliquent à coups de grenades de désencerclement. Le cortège est scindé, mais il se reforme rapidement et reprend sa route. Sur le chemin, les banques, déjà barricadées, sont taguées. La tension monte d'un cran lorsqu'une voiture de police prend feu aux abords de la manifestation. La police charge alors le cortège pour le disperser. L'incendie n'a pas fait de blessés, mais un magasin à côté est sérieusement endommagé. Aux abords de la préfecture, un peu plus loin, nouvelle charge de police. Les différents cortèges se retrouvent finalement place de la Comédie, point de départ de cet acte 43. Depuis 16h, les affrontements s'y multiplient. Manifestants et forces de l'ordre se font face des deux côtés de la place. Les manifestants sont encore plusieurs centaines rassemblés sur les 2 000 initialement réunis. Des grenades lacrymogènes en grappe sont lancées d'un bout à l'autre par les CRS qui tentent aussi d'évacuer les manifestants avec des canons à eau. Ils disent s'attendre à une soirée très longue.
Et on apprend à l'instant déjà 8 gardes à vue à Montpellier, une vingtaine d'interpellations aussi à Rouen où la manifestation a dégénéré. Pendant ce temps à Bordeaux, La République En Marche tient sa toute première université d'été, une pratique que les marcheurs jugeaient jusqu'ici d'un autre temps, mais les voilà donc entrés dans le rang. Pas le choix, les municipales arrivent et il reste de nombreuses investitures à valider, avec aussi la dissidence cette semaine de Cédric Villani à la mairie de Paris. Et pour un parti qui avait fait de la liberté politique sa marque de fabrique, la question des dissidents devenue centrale. Le patron du parti, Stanislas Guérini, a dit tout à l'heure, pas question de les exclure, plutôt de juger au cas par cas. De quoi freiner les élus qui auraient envie d'aller voir ailleurs? Eh bien, pas vraiment, comme vous avez pu le constater, hein, Karine Bécard, sur place.
Oui, les cas de dissidence ne sont pas pour l'instant très nombreux, mais il y en a. Et ce ne sont pas les mots aujourd'hui de Stanislas Guérini qui vont changer la donne. Le député de La République En Marche, Patrick Vignal, par exemple, eh bien, il ira face au maire sortant à Montpellier. Il jure qu'il sera coûte que coûte candidat.
Il y a 200 marcheurs qui me soutiennent, des comités locaux qui veulent qu'il y ait un marcheur. Et nous, on serait en train de s'acoquiner avec 3 chefs à plume en disant « Bon, allez à Montpellier, on aura peut-être une chance d'avoir une ville en marche, mais on va l'avoir en marche, avec des vrais marcheurs, avec de vraies valeurs, avec de l'ADN en marche. »
Même détermination à Nice. À présent, le député de la majorité, Cédric Roussel, ne veut pas soutenir le maire sortant, Christian Estrosi. Peu importe de partir seul, de partir sans parti. Il est prêt à suivre le même itinéraire que Cédric Villani à Paris, une dissidence d'ailleurs face à Benjamin Griveaux qu'il juge, lui, positivement.
Moi, je ne condamnerai jamais celui qui veut faire. C'est l'intention qui compte, voilà. L'intention, la sincérité de son engagement. Il peut ressortir quelque chose de très positif de cette émulation, Donc je crois que c'est une compétition dans laquelle on peut ressortir encore plus fort.
En réalité, la situation est compliquée pour La République En Marche à 7 mois des élections municipales parce que ces règles manquent de clarté, elles manquent d'autorité puisque ce sont les candidats eux-mêmes et pas le parti qui décideront s'ils souhaitent exclure leurs dissidents ou pas.
Karine Bécard avec Olivia Branger pour la technique en direct de Bordeaux. Alors que revoilà l'assistant au Parlement européen Guillaume Pradoura, exclu au printemps du Rassemblement national pour avoir publié une photographie antisémite, il revient sur les bancs de Strasbourg, reconverti cette fois auprès du député de l'AFD, l'extrême droite allemande, alliée du RN. Les deux partis siègent au sein du même groupe. C'est une information du journal Le Monde ce soir. Ils sont 5 et ils accusent. 5 maires de la Seine-Saint-Denis attaquent l'État. Un recours pour dénoncer une rupture d'égalité, un territoire abandonné notamment dans l'éducation, la justice ou la sécurité, la banlieue, cet échec de la République. Azzedine Taïbi est le maire communiste de Stains.
Je vous prends un exemple. Le commissariat de Stains, 80 000 habitants, un agent pour à peu près 500 habitants, quand on sait qu'à Paris, il y a un agent pour à peu près 300 habitants. Ça, c'est inadmissible et c'est réel. Donc il y a un certain nombre de ruptures d'égalité qui sont réelles, concrètes sur le département et pour lesquelles nous ne pouvons plus supporter. Et souvent les habitants ici, et je partage aussi leur idée, on ne demande pas la charité, on ne demande pas l'aumône, on demande simplement le rétablissement du droit commun, c'est-à-dire le fait que l'égalité républicaine s'applique ici, en Seine-Saint-Denis, dans nos quartiers populaires. Donc à un moment donné, ça suffit. Il faut que l'État reconnaisse qu'il y a évidemment une rupture d'égalité qui est structurée, qui est organisée ici en Seine-Saint-Denis depuis trop longtemps.
Le cri du maire de Stains avec nos confrères de France Info. De moins en moins de subventions publiques, sans parler de la suppression des emplois aidés. Le monde associatif aussi est à l'os. Et pas sûr que les 28 millions d'euros débloqués d'ici 2022 soient suffisants. Une enveloppe annoncée dans le journal Le Parisien par le secrétaire d'État, Gabriel Attal. En bref, encore 6 militantes féministes sanctionnées hier soir à Paris. Amende de 400 euros pour avoir collé des affiches contre les féminicides. La mairie assume au nom de la lutte contre l'affichage sauvage. Le sport, le foot et l'affiche de rentrée. France-Albanie ce soir, match de qualification pour l'Euro 2020. Beaucoup d'absents, beaucoup de blessés chez les Bleus, Mbappé, Pogba pour ne citer que. Et pourtant, faudra faire avec. Car après la défaite en juin dernier face à la Turquie et vu ce qui s'annonce pour la suite, Cédric Guillou, les Bleus n'ont plus vraiment le droit à l'erreur.
Les réceptions de l'Albanie ce soir puis d'Andorre mardi doivent permettre à l'équipe de France de se donner un peu d'air dans ce groupe où trois nations sont à égalité de points après les 4 premières rencontres de qualification. La France donc, mais aussi la Turquie et l'Islande, deux pays que les Français vont rencontrer au mois d'octobre. Les hommes de Didier Deschamps devront, rappelons-le, terminer dans les deux premiers pour être certains de participer au championnat d'Europe 2020. Les matchs retour contre ces deux gros clients, le 11 octobre face à l'Islande à Reykjavik et le 14 contre la Turquie au Stade de France seront probablement décisifs pour la qualification, à condition que les champions du monde français, malgré une équipe décimée par les absences d'Mbappé, Pogba, Kanté ou encore Dembélé, fassent le plein de points en 3 jours contre l'Albanie et Andorre.
France-Albanie, match de qualification pour l'Euro, coup d'envoi au Stade de France ce soir, 20h45. De l'autre côté de l'Atlantique, ça joue au tennis. Finale dames de l'US Open, Fabrice Abgral, vous êtes en direct de New York. Serena Williams ce soir sur les courts. Fabrice, on peut dire que l'Américaine joue plus qu'une finale en réalité.
C'est vrai, mais Serena Williams joue pour l'histoire, mais Bianca Andreescu joue également pour l'histoire. Toutes les deux ont rendez-vous avec l'histoire. Bianca Andreescu va disputer sa première finale en Grand Chelem et elle a l'occasion d'offrir au Canada son premier titre du Grand Chelem, hommes et femmes confondus. Une pression énorme pour cette jeune joueuse de 19 ans qui n'était même pas née quand Serena Williams a remporté le premier de ses 23 titres du Grand Chelem. Donc finale pour l'histoire, en effet, du côté de Bianca Andreescu. Mais que dire, et c'est là que je vous rejoins, pour Serena Williams, elle a l'occasion d'entrer définitivement dans la légende de son sport. L'Américaine a bientôt 38 ans, vise un 24e titre du Grand Chelem. Si elle y parvient, si elle gagne cette finale, si elle bat Andreescu, eh bien Serena Williams égalera le record absolu de titres majeurs détenu depuis 1973 par l'Australienne Margaret Court. Ce sera un exploit considérable 20 ans après son premier titre obtenu ici même à New York. Serena Williams va ressentir évidemment énormément de pression, la même qu'elle a ressentie lors de ses 3 précédentes finales qu'elle a toute perdue à Wimbledon et à l'US Open l'an passé. Il y a encore une fois à Wimbledon cette année. Serena Williams n'a plus gagné de Grand Chelem depuis sa victoire à l'Open d'Australie en 2017. Ça fait 2 ans et demi maintenant.
Eh bien, on va suivre ça avec vous ce soir, hein, Fabrice Abgral, en direct de New York. Et puis chez les hommes, demain, la finale de l'US Open, c'est Nadal qui jouera contre le Russe Medvedev. Nadal qui jouera là sa 3e finale en Grand Chelem de la saison. Le sport encore et ce match à suspense par excellence jusqu'au bout du bout. Les Bleus se sont qualifiés in extremis pour les quarts de finale du mondial de basket. 78-75 face à la Lituanie et l'aventure continue sur les parquets de Chine. Deux villes, capitale du cinéma, le temps d'un week-end. Venise avec ce soir le palmarès de la Mostra, le dernier Polanski parmi les favoris pour décrocher le Lion d'Or. Et puis Deauville en Normandie, ouverture hier soir avec le dernier Woody Allen. Cet après-midi à Deauville, c'est un célèbre 007 qui a mouillé la chemise. Pierce Brosnan a félicité la jeune Greta Thunberg pour son combat écologique. Autre image, mais même registre pendant ce temps-là à Venise, où des militants ont occupé un instant le tapis rouge pour dénoncer la pollution des navires de croisière. Un certain Mick Jagger en soutien. Enfin, un petit conseil de notre service culture. Si vous êtes de passage à Toulouse, c'est le grand rendez-vous des pianistes de classique et de jazz en ce moment. Le pianiste Jackie Terrasson, qui est aujourd'hui à Toulouse, donc dans le cadre du festival Piano aux Jacobins, au programme d'autres grands noms, le jeune prodige Alexandre Kantorov ou encore Boris Berezovsky, le festival qui fête cette année ses 40 ans. Allez, comme tous les samedis soirs, dans le 19h de France Inter, on retrouve la vie connectée de Christine Siméon. Bonsoir Christine.
Bonsoir Hélène.
Alors vous nous emmenez cette fois dans le monde de la science-fiction avec un roman d'anticipation, Les Machines Fantômes, c'est son titre d'Olivier Paquet.
Nous sommes en 2037 à Paris. Un trader de haut vol trouve le moyen de faire agir des intelligences artificielles au profit de ses opérations de bourse. Il fait ça pour s'amuser, pas pour gagner de l'argent, car à la dernière minute, il fait retomber la flambée boursière qu'il vient de provoquer. Bref, jusque-là, c'est amusant, mais ça va se compliquer le jour où ces IA seront plus nombreuses et connectées entre elles. C'est elles qui vont écrire, en quelque sorte, les aventures que vivront les personnages de ce roman. Le trader, donc, la joueuse de jeux vidéo, le tireur d'élite, la pop star, le vigile transgenre, l'espion et le jeune homme mystérieux aux multiples facettes.
Mais cette mise en action des machines, ce n'est pas forcément néfaste dans le roman d'Olivier Paquet ?
La question n'est pas tranchée, bien sûr, sur la finalité de ces machines. Et le roman joue sur les ambivalences des machines et des personnages et des buts qu'ils poursuivent. Les protagonistes pensent être protégés par les IA à un moment donné, puis ils vont s'interroger sur la véritable finalité de leurs interventions dans le cours de l'histoire. Pour Olivier Paquet, la vraie question n'est pas de savoir si les machines feront mieux ou moins bien que les humains ou si elles gagneront les prochains mondiaux d'échecs.
Ce que je trouve effectivement plus intéressant, c'est toute cette frange de recherche sur les intelligences, notamment de chercher à créer des intelligences qui n'ont pas une supervision humaine et de voir ce qu'elles produisent. Et notamment, il y a eu des expériences en cours, par exemple, d'utiliser des mini-robots qui sont livrés à eux-mêmes dans les coraux pour enlever les parasites et de se dire ils vont trouver une solution à laquelle on n'a jamais pensé. Et c'est en enlevant le plus d'humains dans les machines, si j'ose dire, qu'on autorisera ces machines à créer quelque chose auquel les humains n'ont jamais pensé et donc de soulever des solutions inédites. Évidemment, les humains regardent ce qui se passe. Il ne s'agit pas non plus de leur donner toute liberté, enfin de faire ce qu'elles veulent. Mais de voir ce qu'elles peuvent produire d'inédit.
On va se rassurer quand même tout de suite, Christine, ce libre-arbitre n'est pas pour tout de suite. En revanche, ça fonctionne très bien dans le roman d'Olivier Paquet parce que tout est connecté.
Oui, dans ce roman, on trouve par exemple des armes connectées et programmées pour atteindre leur cible ou la manquer, au contraire, des systèmes de régulation du métro dans lequel ces IA se faufilent pour un changement dans le parcours d'une personne. Évidemment, la main de l'humain est là derrière et il est clair que s'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire, c'est d'un être humain qu'elle émane.
Christine Siméon, merci. Les Machines Fantômes d'Olivier Paquet, c'est aux éditions Atalante. Et tout sur ce roman, son auteur, c'est aussi sur franceinter.fr. Retour de la vie connectée avec vous, Christine, samedi prochain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Un peu de gris, un peu de pluie, c'est Jean-Michel Golinski.
Fraîcheur et averse demain sur la moitié est du pays. Plus de soleil et de douceur autour de la Méditerranée et à l'ouest d'une ligne Évreux-Rodez. À noter le vent du nord, toujours sensible entre la Manche et la Loire et le renforcement du Mistral, de la Tramontane et des rafales d'ouest sur la Corse. Bref, une journée en demi-teinte avec des températures matinales souvent comprises entre 5 et 10 degrés. Un maximum de 16 à 18 prévu aux environs de la Manche, dans le quart nord-est et en Rhône-Alpes. Il fera 23 en moyenne au sud de la Garonne, 26 autour de la Méditerranée et 18 à 20 degrés sur le Poitou, le centre Val-de-Loire et le bassin parisien. Sous un ciel mitigé sur la moitié est avec des ondées éparses de la frontière belge en descendant vers l'Auvergne et des averses plus fréquentes et parfois orageuses en approchant des frontières avec des flocons sur les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres.